Bonjour, alors merci aux intervenants pour ces interventions. J'ai deux questions. Alors, tout d'abord, une en anglais pour Emmanuel et Paola, et puis ensuite je reviendrai au français pour Hassan Bouakri. Emmanuel et Paola, you mentioned the fact that refugees and migrants are taking the same routes. My question is rather, are not these people the same people? Since I think these categories of mixed migrations is more reflecting our own preoccupation in Europe and in rich countries all over the world. And they are basically a construct, a juridical construct or institutional construct of ours. And as Mehdi has basically underscored it, I mean, the processes of intentionality through migration is much more complex than being a refugee or a migrant. And as an anthropologist, I mean, I'm not just questioning the analytical value of this category, but I'm wondering why, as scholars, we can still keep using these categories. And it's not just a question of conceptual debate, it's rather a question of political responsibility, because we are not external to these processes. We are really part in it. We take part all together as scholars, consultants, politicians, jurists, etc., in the global process of constructing migration as a problem. So in that sense, I really wonder, I mean, why we still use these categories. Alors maintenant, la deuxième question, c'est à Hassan Boubakri.
Est-ce que je peux vous connaître, s'il vous plaît?
Cédric Parizeau. Je travaille à l'IREMAP, je suis chercheur au CNRS. Je travaille aussi sur l'informel. Et alors, ma question, c'est est-ce que l'instrumentalisation ou l'infiltration des filières de contrebande en Tunisie est un phénomène véritablement nouveau? Vous avez parlé au départ d'un État qui finalement a laissé de côté ce territoire. Mais est-ce que laisser de côté ce territoire en termes d'infrastructures, de développement, de financement, etc., veut dire pour autant, surtout quand on connaissait l'État tunisien avant la Révolution, laisser un ensemble d'acteurs faire ce qu'ils font sans savoir et s'informer en permanence de ce qui se passe? Voilà.
D'abord un commentaire et puis ensuite deux questions. Alors le commentaire, je trouve que c'était intéressant hier de voir comment on a abordé la question du droit en mouvement. Et puis là, je trouve que c'est bien aussi de voir comment, s'il y a ça, que vous abordez plus justement les sociétés en mouvement et les frontières en mouvement. Et je crois que c'est important aussi, en tant que peut-être plus sciences sociales, géographes, sociologues, anthropologues, de montrer aussi comment il y a ce qu'on appelle des fluidités identitaires, des porosités des frontières, enfin toutes ces notions. Qui permettent de ne pas fixer les choses de manière trop aveugle. Première question, c'est pour justement Paola, un peu dans la suite de ce qui a été dit. Votre objectif était d'expliciter, si j'ai bien compris, hein, le fonctionnement de ce que vous appelez un système, un smuggling système, en Méditerranée. Et moi, ça me pose déjà problème, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un système, ce système. Est-ce qu'on peut parler d'un système? Est-ce que précisément il n'y a pas une hétérogénéité dans les routes, mais aussi dans les manières d'être un jour, pourquoi pas trafiquant? On peut être un jour migrant, le lendemain passeur. Hassan a bien montré aussi comment on peut aussi être passeur, commerçant et migrant. Donc je pense que c'est important de montrer plutôt, toutes ces subtilités qui permettent aussi peut-être de remettre en question ces notions de trafic. On est aussi dans d'autres économies morales. Est-ce que certains parlent de l'industrie de la migration, d'autres parlent de trafic, d'autres parlent d'entrepreneurs de la migration? Il me semble que ça renvoie quand même à des catégories différentes. Et je pense que c'est important de savoir aussi qui on parle. Est-ce qu'on parle en tant que consultante ou est-ce qu'on parle en tant que chercheur? Il me semble que toutes ces questions-là méritent d'être abordées. Et je crois que c'est important, et je trouve que ça n'a pas été suffisamment fait, que les uns et les autres se présentent par rapport à d'où ils parlent. Pour moi, c'est enfin, primordial. Et justement, par rapport aussi à la présentation d'Emmanuela, vous abordez donc cette notion de migration mixte, migration, qui pose effectivement problème, puisque c'est une construction politique, donc c'est important aussi de le dire. Et j'ai mal compris ce glissement un peu sémantique aussi, de passer de mixte migration à mixte vulnérability profiles. Moi, c'est une fausse question, j'aimerais en comprendre un peu plus. Et par ailleurs aussi, là, c'est une question sur les présentations aussi, les PowerPoint, etc. Moi, ça m'a. Enfin, vos photos, par exemple, aussi, c'est quelle place que vous accordez à ces photos qui étaient d'une extrême violence et qui étaient, à mon sens, en contradiction avec vos propos qui étaient à l'inverse beaucoup plus standardisés, classiques et qui ne remettaient pas forcément en question ce qu'on voyait.
Well, I have also a question for Emanuela Olidi. It's a methodological question, similar maybe to the first question. I would like you to explain a little more about the differences between within mixed groups, mixed migration, between refugees, forced migrants, and economical migrants. And to say to what extent do you believe this distinction may be useful for a sociological approach, because it is, of course, very useful for a legal approach, but is it also useful for a sociological approach?
Encore Emanuela, j'ai deux questions en plus, mais rapide, j'espère. Simplement, est-ce que tu pourrais dire deux mots sur un projet qui avait, moi je crois me souvenir qu'avant 2011, il y avait un projet avec la Libye et l'Union Européenne, mais autour de l'Italie, justement, il y avait eu des avancées sur la protection, sur, oui c'était très flou, en tout cas, aller protéger les personnes sur place, et qui était quand même centré autour des acteurs italiens, c'est-à-dire qu'il y avait le CIR qui était impliqué, avec le HCR et l'ICMPD. Et ça, en fait, ma question, c'est de savoir si, déjà, si toi, tu sais ce que ça a donné, et si aujourd'hui, on est encore sur des projets qui sont autour des acteurs italiens, c'est-à-dire si les acteurs italiens restent aussi présents dans les tentatives de protéger certaines personnes sur place, et de faire le relais, finalement, aussi pour le HCR. Et la deuxième question, je crois que tu n'as pas mentionné les Regional Protection Programs qui sont mis en place avec l'Union Européenne et le HCR. Et en fait, si tu pouvais nous dire, parce que c'est un peu la tarte à la crème, ça fait des années qu'on nous en parle, est-ce qu'il y a quelques petites choses qui sont faites dans ce cadre?
Une question pour Mehdi. Est-ce que tu pourrais, pour faire le lien avec notre journée, pour faire le lien vraiment entre les deux journées, mais du point de vue des acteurs, et en l'occurrence là de la société civile et des associations, et je sais que de l'intérieur tu l'observes bien, est-ce que tu pourrais dire que finalement on assiste aussi à une forme d'expertise en droit de ces associations, peut-être assez nouvelle finalement, cette expertise en droit.
Martina, et puis après on passera à une première partie de réponse.
I have a question for Paola Manzini. I was wondering if you can tell something more about the way in which you and others working with you produce knowledge on smugglers and traffickers, and in particular, I know that the first phase of UNAFOR entails the data collection on smuggling networks, but it's not clear to me how Europol, Frontex, and all these agencies are working on that. So if they are extracting, taking the data from the migrants when they arrive, for instance, in Italy, there is Frontex there asking questions to the migrants, and these questions are also include also question about which kind of smuggling networks have you used, how much did you pay, so if the data are taken from the migrants, or if there is some data collection in Tunisia or in Libya as well. And my final comment on the mission, on the operation, a UNAFOR operation, I was wondering if you think that this operation finally is, it has been presented as an operation for undermining the smuggling networks in order to save the migrants. But at the same time, in these official documents, it's written that the operation should undermine the logistic and the material infrastructure of migrant crossing. So it is also finally a way for blocking the migrants to cross the Mediterranean. And so to access, if you want, the possibility to seek asylum in Europe.
Merci. Donc je vais demander à Emmanuela de commencer à répondre.
Thank you for the question. So concerning the first one, I fully agree on the process of intentionality is extremely complex, and I fully agree that the concept I've been using are political constructions. In fact, this is why also I mentioned when I try to define mixed migration, the continuum between forced and voluntary to precisely convey that there is not a clear cut and boundaries are very fuzzy. And here, like probably you're already familiar with the work of Roger Zetter on the how labels are problematic, and probably I would just also advise, I would suggest to read, if you don't know it already, a very interesting article by Katie Long on the historical the legacy that is behind terms such as refugees, asylum seekers, and migrants. It's a political historical construction full of problems. However, these are the terms that inform current policy instruments and mechanisms. And we as scholars, of course, are implicated in those, and I agree that we're implicated in their construction. But at this point, myself, I don't have an alternative construction to say, okay, we agree that these concepts are problematic, related institutions are problematic, say the mandate of of IOM, how IOM collaborates with UNHCR, but I don't have in my mind an alternative structure that can address this. So bear in mind and fully agree with you that these are very problematic notions, and why should we prioritize someone fleeing a terrible war versus someone that has excellent potential to contribute to the economy of a country? You know, this prioritization that sometimes is implicit in this concept. I fully agree that this is problematic, and I don't have a clear answer. However, my presentation was on tracing how the policy debate has been developing and has been articulated, and of course the policy debate starts from this concept that are problematic nonetheless. So I guess this also relates to the other comment on how these concepts are linked to a political construction. I really fully agree. I did not understand the second question on the photos, so maybe I could ask you to clarify the
Vos photos étaient très violentes. Oui, les photos que vous présentez dans votre PowerPoint me semblent très, très violentes et en même temps elles ne sont pas commentées et le texte qui va avec est, je trouve, très très en décalage. Mais c'est, voilà, je me pose.
Oui. Et vous me dites, il y a quelques photos particulières ou toutes les photos, toutes les photos?
Bah, la plupart des photos expriment une certaine violence de la situation pour les gens, me semble-t-il. Je ne sais pas si vous allez me dire. Oui, ces photos qui sont produites par d'autres que par vous, j'imagine. C'est des photos
de... Non, pas tellement, pas moi. Non. Là, j'ai mis les crédits.
Non, mais quel message subliminal vous voulez nous faire passer? Je ne sais pas comment dire les choses, mais c'est des photos extrêmement violentes. Qui montre les conditions d'immigration. En même temps, dans vos propos, c'est pas de ça véritablement que vous parlez.
Non, c'est très important. En fait, je n'avais pas beaucoup de temps pour parler des photos. Excuse me, can you go English just because I'm going to be a bit more precise in how I can elaborate on this point. We are talking about very dramatic issues, and we are all very aware of this. And photos have a role in conveying the issues at stake. We're talking about people's life that are put at great dangers, and this is, I guess, the core of the issue and why these issues are so immensely relevant now in Europe, are even more relevant in view of the current crisis that reached European borders. But of course, that was there from much before. Of course, this crisis has reached Europe, and this is what countries in North Africa and the Middle East have been dealing with for years. But because it's been relatively far from our borders, we have been somehow less affected. And this is also what's my point on numbers, and it's putting in perspective the migration and the crisis that is affecting, for instance, now Europe versus the one that has been affected, has been affecting the Middle East and North Africa for the last few years, and also the same applies, of course, to the specific events in 2011. Then on the issue of methodology and the mix-up and the mixed groups on refugees and forced migration, and how useful this is for sociological approaches, I'm not a sociologist. My background is international relation, in fact. And again, I would like to reiterate that these concepts are, of course, problematic, and it's important to, of course, bear in mind the fact that there are really labels that carry all sorts of problems. But since I'm not a sociologist, I don't aim to infer anything from a sociological point of view, except to which this can be useful for a sociological research. Then on the Delphine question, so the project it was a collaboration between the Italian Refugee Council, SMPD, and UNHCR, was eventually put on hold. Between 2011 and 2013, the Italian Refugee Council was active in Libya and was, I understand, funded by the EU, but it was no longer the same project that UNHCR was working on. And namely, there was operational cooperation between the two, but that initial project where UNHCR, the Italian Refugee Council, and SMPD, that project where they were collaborating with each other, had been put on hold. And so the subsequent collaboration, namely specifically between UNHCR and the Italian Refugee Council, continue, but they're not under the umbrella of EU-funded project. The regional protection program, I couldn't elaborate on all the EU mechanism projects that have been implemented, but there were a number of projects funded by the EU involving UNHCR, including the regional protection program, and that involved also Tunisia and Egypt, and that was covering both. The intention there was of linking refugee to migration, understanding the complexities and the complexity related to the two, and it could involve also like a number of actions, including assistance to persons in detention, assistance to urban refugees, a lot of training. Training was certainly a key focus between 2011 and 2013 by the international community. Many efforts were put and a lot of resources spent on training and local authorities and sort of capacity building, really. And this is where I say there was somehow a fair diffusion, because especially in the case of Libya, the subsequent events proved that all those efforts were, in a way, proved to be not sustainable and not long-lasting.
Yeah. Thank you for the question. I first answer to the distinction between asylum seekers and migrants. I remember that the UNHCR introduced the terms of mixed migration flows in 2006. And this was because, effectively, the composition of people coming by boat was changing, and the rate of asylum seekers and refugees was increasing. And so this international organization proposed to adopt a different perspective. But anyway, today the European Union has decided very strictly to adopt this distinction. You know that there have been created just last month the hotspots that are managed by European agencies on the borders in Italy and in Greece. And what are they doing? They are just selecting who are the economic migrants to be deported and returned back, and who are the migrants who are accompanied children or trafficked person or asylum seekers that can be assisted and transferred eventually in other European countries, because there were several problems in the management of asylum seekers. There are a lot of informal proceedings. For example, I've seen in Italy there were the fact that everyone has to leave the fingerprints as not being respected, because the movement of people was so big that Italian authorities were not able to cope with it, and so they left past people. So now there is a process from the part of the European Union to control, and so through this hotspot. And this I think this is the first priority in the policy to manage this migration crisis in the European Union, this distinction. Of course, I know, and I try always to say that it's not possible to make a clear distinction, and for example, the same person may be an economic migrant and an asylum seeker, or a trafficking victim and an asylum seeker. There are refugees that already have recognized the state of the need of protection, and the asylum seekers that are waiting for this recognition, and other vulnerable migrants, and then other people that are not allowed to enter in these categories. And for these people, a big amount of money has been put to return them at home in the last year. Frontex, for example, is receiving this mandate too, that was not one of his mandates, to return people to their country. So this distinction is really effective. It's what is going on. It's what is going on today. And as regards the research on smuggling, and even the fact that smuggling can be defined as a system in the Mediterranean area, I have been working a lot with data. Data are mainly provided by police forces, so they reflect the work of police forces, not reality as it is, because maybe in some periods migrants are, flow of people are not recorded by the authorities. There were, for example, now in Greece, several boats arrive and are not recorded. In Italy, they are all recorded because there is a patrolling at sea that is really, really articulated. So all the data are more or less approximate, but these data are what we have in order to study the magnitude of the flows. Of course, one of the best things to do is to make the research on both sides of the route, and even in origin country. So the interviews with migrants are very useful in order to understand how the travels were realized. I don't know, Frontex, they they ask people even on the boat, also on the boat, they are police, they interrogate, you know, people. But as a sociologist, we organize, a different kind of approach. It's not easy, but yeah, I think that at the end, this is what one of the main interesting sources to know what is going on, but also judicial proceedings have been very important in many cases, because they describe the situation from the point of view of traffickers, because usually migrants are not well informed about the strategies of traffickers, of smugglers. They don't know, really. They just know they have to pay someone, and they have to rely on someone, and they did this, and they just have to obey. This is what I learned, that they have just, when they pay, from the moment they pay, they are generally in the hands of the smugglers. But smugglers are not all the same. There are smugglers that are fine, for example, that are just providing a service. And so, yes, there is, even on the media, a strike campaign against smugglers. And in Italy, we have, for example, a lot of problems with fishermen in Sicily that were arrested because they were supposed to be smugglers. But there is a system of smuggling with very important smugglers that are even putting many money investing in this business. For example, from Turkey, they have the very, very big ships, the ghost ships, that were very, you know, they made a lot of money from them, but they had to invest a lot on them. So there are some people that are really good at trafficking.
Merci. Je vais passer la parole.
Non, vas-y. Vas-y, après.
Et je suis désolée de faire court, si on veut avoir d'autres questions.
C'est une excellente question, parce que c'est quelque chose que, qui est une reconfiguration des rapports de force sociopolitiques à l'échelle globale. C'est ce que beaucoup de sociologues nomment les nouveaux mouvements sociaux. Et effectivement, on est passé, pour le dire de manière caricaturale, parce que bon, je pense qu'il y a des sociologues qui savent de quoi il en retourne, on est passé d'une certaine manière à une lutte politique contre les inégalités sociales, à une lutte politique contre les inégalités de statut. C'est assez clair, ça se passe en France, ça se passe partout dans le monde. C'est vrai que ça nous est beaucoup arrivé du monde anglo-saxon. C'est vrai que les anglo-saxons étaient un peu en avance avec bon, tout ce qui était la question du féminisme, tout ce qui était la question de lutte antiraciste, etc. Et jusqu'à tout un ensemble de luttes différentes ou dans laquelle, d'une certaine manière, l'individu est consacré. Qu'est-ce qui est capable, quel système politique est capable de prendre en compte ce genre de lutte et d'inscrire ou de transformer ces luttes de manière à ce qu'elles soient non seulement pacifiées mais qu'elles produisent des effets dans la société, c'est des systèmes qui deviennent de plus en plus juridiques. Et donc on a une inflation en Europe, dans le monde entier, de production normative et juridique. Bon, avec l'Europe, c'est carrément une hydre à plusieurs têtes, on ne sait même plus, on ne comprend. Et il faut faire plus qu'une thèse pour comprendre ce feuilletage juridique, on ne sait plus qui. Bon. Alors c'est vrai que de temps en temps, les États centraux européens, quand il y a des États centraux, parce qu'il y a des systèmes différents, remettent un peu d'ordre, mais c'est très difficile à s'y retrouver. Bon, je pense que les juristes, certainement pour eux, essayent de connaître, mais moi, pour moi, qui me suis un peu penché là-dessus, c'est du même quelque chose de. Donc finalement, c'est tout à fait normal qu'au Maroc ça advienne, Maroc ou ailleurs. Alors après, bien sûr, moi je le documente de manière avec du terrain, etc. Donc il y a un contexte général. Au Maroc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2005, il y a une formation qui était financée par le HCR. Le HCR ne pensait pas du tout qu'on allait faire ça avec cet argent-là. Mais le HCR finançait deux associations, une française, la CIMAD, et une marocaine qui s'appelait la GVIC, qui ont mis en place une formation qui s'appelait Asile Maroc pour former les gens à la question de l'asile. Et la représentante HR à cette époque-là nous avait bien expliqué en plénière qu'il fallait à tout prix apprendre à trier les migrants très rapidement. Bon, l'argent a été pris, les formations ont été dispensées et on a enseigné exactement l'inverse, on a formé des gens de manière complètement inverse avec des gens qui sont venus un peu du monde entier pour former. Pourquoi cette formation est importante? Parce que pendant le déroulement de cette formation, qui s'était fait en plusieurs sessions et pendant lesquelles les associations de migrants étaient mises en avant, donc ça participe encore de ce concept-là américain, enfin, de l'empowerment.
La CIMAD, c'est vieux aussi. Hein.
Non, la CIMAD, c'est très vieux, mais la CIMAD, les militants de la CIMAD, eux aussi, sont impactés par ce genre de transformation. Et donc, eux aussi sont dans l'empowerment, comme toutes les autres associations, pour former les migrants eux-mêmes, pour que les migrants apprennent à se défendre eux-mêmes. Pendant cet événement-là, pendant cette formation-là, il y a eu les événements de Sebsa Melilla, dans lesquels il y a eu à peu près 14 morts, entre 14 et 18, et puis des milliers de personnes qui ont été déportées dans les zones sahariennes. Donc du coup, on avait en grandeur nature les conséquences de l'externalisation des contrôles migratoires. Du coup, il y a eu comme un sursaut même militant. Des gens sont partis de cette formation de Kitabrusnepa et sont même allés à la recherche des bus pour faire des chaînes humaines, pour empêcher les gens d'être déportés dans le désert, etc. Et donc du coup, ça a vraiment créé quelque chose. Et à partir de cette formation, les intervenants comme les participants, un réseau s'est créé et ça a créé la contre, à la mode un peu intermondialiste, la contre, c'est pas une contre-manifestation, mais la conférence, on va dire, non gouvernementale face au processus de Rabat. Rabat a mené, sous pression européenne aussi, tout de même, il faut le rappeler, des gens d'Afrique et d'Europe pour savoir comment on allait traiter de manière sécuritaire ces problèmes-là. La société civile s'est réunie en même temps et a créé le réseau euro-africain pour essayer de dire qu'il y a d'autres façons de concevoir les choses. Et c'est à partir de là où les gens se sont vraiment orientés vers les questions de droit. Mais je pense que c'était déjà là à la base, il y avait déjà une reconfiguration.
Rapidement alors. Merci, on est au terme des 20 minutes que tu as rajoutées. Rapidement donc pour répondre à Eric, bonjour, ça fait plaisir de te connaître. Alors, avant 2011, bon, moi, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de contrôle d'État. J'ai dit l'État, au contraire, l'État a été contrôlé totalement, je veux dire, la situation, mais avait cédé volontairement un pan de contrôle, sous-traité en quelque sorte le contrôle, pour justement améliorer sa capacité à contrôler, c'est ce qu'on appelle impliquer pour mieux contrôler. Tu vois, donc pour pratiquement asservir les groupes qui travaillaient dans l'économie et pour justement donc les asservir et mieux les contrôler pour et on peut dire que vraiment le régime, le pouvoir, bien aimé, avait ses yeux partout. Faut pas, que ce soit dans l'économie informelle ou dans l'économie formelle, donc la contrebande, dans tous les types de trafic. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y avait l'histoire de cette famille, il y avait une grande famille sur place qui servait en quelque sorte de catalyseur pour le contrôle de l'État sur toute cette région. Alors, entre 2011 et 2013, donc affaiblissement du contrôle de l'État, et ce que disent maintenant les groupes locaux, ils disent qu'il y a eu menaces sécuritaires et plus de trafic illicite, plus de compris, trafic d'armes. Il y a le programme Small Arms Survey, tu connais à Genève, ils ont fait des études justement sur le trafic d'armes, et jusqu'à 2012, il y avait un léger trafic, mais après, au fur et à mesure que du côté libyen comme du côté tunisien il y avait moins d'autorité, moins de capacité de contrôle et de présence des forces de sécurité, donc totalement, je veux dire, ça a échappé, le contrôle a échappé à l'État, et donc ce qui explique, enfin, ils mettent en avant le fait que parce que les groupes et les populations locales ne sont plus impliquées, associées au contrôle, donc les choses sont parties. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'on revient en quelque sorte à une situation en quelque sorte d'avant, à une VR7. L'État central a repris son contrôle, mais par des moyens sécuritaires. Et la preuve, c'est qu'il y a une militarisation du contrôle de toute cette partie du territoire. Mais en même temps, on voit, et c'est la question que je posais tout à l'heure, mais c'est vraiment une question, une hypothèse, je dis sur le moyen terme ou le long terme, est-ce qu'on n'est pas en train de voir l'État céder volontairement sa capacité de contrôle et sa souveraineté de contrôle de cette partie du territoire au profit de ces groupes et partagé avec ce groupe. Et ce contrôle des groupes locaux va jusqu'à céder une partie des prérogatives diplomatiques de l'État pour que ces groupes locaux participent à la médiation, par exemple, avec les groupes libyens. Donc c'est ça, enfin, je sentais qu'il y a une sorte de menace, en quelque sorte, et un risque. Est-ce que, sur le moyen réglementaire, je veux dire, l'État ne pourrait plus, et dans ce cas-là, on se trouverait dans une situation comme au Mexique, comme dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, où l'État ne contrôle plus, je veux dire, ces territoires. Merci. J'allais poser une question très rapide à Mehdi, il ne nous a pas parlé, mais peut-être tout à l'heure. Non. Tout à l'heure, tu as parlé du travail de la société civile sur les étrangers au Maroc, mais tu ne nous as pas parlé du travail de la société civile par rapport au partenariat de mobilité avec l'Europe sur les relations, sur les questions d'externalisation. Mais ce sera plus tard, merci.